Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de La Cellule. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai rassemblé une super team. Je suis avec Jérémy. Jérémy, ça va ?
La pêche.
Je suis avec Pierre. Pierre, ça va la pêche ?
Ouais, salut, salut.
Je suis avec Darky.
Bonsoir.
Et avec Julien. Julien, ça va la pêche ?
Ouais, parfait.
Alors, Julien, c'est toi qui viens avec cette idée de podcast. Tu fréquentes La Cellule maintenant et tu t'es dit, putain, il y a un jeu, je me demande si c'est un jeu de rôle.
Ouais, voilà. Et je voulais votre avis.
Voilà, je vais leur faire tester, on va voir. Et ce jeu, il s'appelle Tout le monde est John.
Ouais, Tout le monde est John, ouais.
Qu'est-ce que c'est ? Alors vas-y, raconte-nous, parle-nous de ce jeu.
Alors, dans Tout le monde est John, c'est très simple. John est narcoleptique et il va s'endormir assez souvent et il se souvient de rien. Et vous êtes les obsessions de John. C'est-à-dire, vous êtes des voix dans la tête de John, ouais. Et c'est vous qui le faites agir, en suivant plus ou moins ses pulsions, parce que vous êtes des obsessions très primales, et donc vous allez lui donner des pulsions. Alors, là où on est dans le jeu de rôle, c'est qu'il y a bien un meneur de jeu, et il y a bien des personnages, enfin il y a un personnage autour de la table, mais en fait vous jouez chacun vraiment une personnalité de ce personnage, donc...
C'est
y a bien
comme
des personnages.
Dans Vice et Versa, le Pixar, où on joue tous une espèce
voilà,
de...
Voilà, c'est ça. Oui, d'ailleurs, c'est plus facile de parler de Tout le monde est John maintenant qu'il y a Vice et Versa.
Ouais.
Qu'est-ce que.
Il y a aussi.
Oui, alors je joue.
Il y a un film d'horreur aussi qui s'appelle Identity, je crois, dans lequel.
Ça, je pourrais pas te dire.
C'est l'histoire d'un Jérémy.
Un schizophrène qui a plusieurs personnalités. Donc,
c'est
du
ça. Et il va les faire s'entretuer pendant le film. Ouais.
Oui, en fait, on voit à l'intérieur de sa tête, on voit pas l'histoire du schizophrène, on voit ce qui se passe dans sa tête. Et donc, du coup, il a tout un trip avec ses personnages et ils finissent par entretuer ses personnages.
Ouais. Et donc là, Tout le monde est John, c'est ça. En fait, finalement, tous les joueurs plaident pour un seul personnage.
Voilà.
Ça, c'est intéressant.
Mais alors, je joue comme dans un jeu de rôle traditionnel. Je joue le rôle, il joue les PNJ, il joue ce qui se passe, il décrit les conséquences des actions. Vous allez tenter des actions, vous allez lancer des dés pour voir si vous réussissez vos actions et tout. Sauf qu'à tout moment, vous pouvez perdre le contrôle de John. Et donc, le contrôle de John passera à un autre personnage qui se mettra à contrôler John.
D'accord.
Là où on est dans une mécanique de jeu de société, c'est-à-dire que votre but à la fin de la partie, c'est de faire le plus de points de victoire. Et vous avez des objectifs faciles à atteindre qui rapportent peu de points, des objectifs difficiles à atteindre qui rapportent beaucoup de points. Et votre but dans la partie, alors attention, parce que quand on est avec des rôlistes, c'est l'écueil, ce n'est pas une partie de jeu de rôle traditionnel, il va y avoir une enquête, mais ce n'est pas une enquête à résoudre, votre but, c'est de le plus vite possible, faire ses points de victoire. Parce
D'accord.
que l'histoire, ça va servir de prétexte, vous allez très vite, vous allez voir vous en foutre, parce que... Sinon, vous perdez très vite le contrôle de John. Et si vous perdez le contrôle de John, bah, vous ne pouvez plus faire les actions correspondantes.
Je sens que ce podcast one shot.
Vous allez voir, c'est monstrueux. Alors, c'est un jeu, il ne faut pas que ça dépasse la demi-heure. Parce qu'au bout d'une demi-heure, on s'emmerde ferme. Donc, ça va être très rapide et il va falloir que vous soyez très, très réactif. Les règles sont hyper courtes. Elles tiennent sur une feuille, deux feuilles de papier maximum. Et on va jouer très, très vite.
Et vous vous souvenez de ce jeu Si Dracula ? Est-ce que vous étiez là ? Non.
C'est là où
tu
es des animaux et tu dois
ouais,
danser
tu dois
pour convaincre des gens.
C'est pareil, c'est des jeux.
C'est quoi la mécanique là ? Comment tu fais tes actions à John ? Tu fais des propositions ?
Alors,
tu tabas des cartes ?
Non. Chaque fois que tu fais une action que John... Alors, déjà, vous allez vous battre pour le contrôle de John. Avec un système de mise très rapide.
Ah, okay.
Vous vous battez pour prendre le contrôle de John. À partir du moment où vous avez le contrôle de John, vous faites agir John. À partir du moment où John fait une action qu'il peut rater, donc pas ouvrir une porte, quoi que ce soit, vous devez faire un jet pour réussir l'action.
D'accord.
Si vous réussissez l'action, très bien. Si vous ratez l'action, vous perdez le contrôle de John. Et c'est les autres qui vont se battre à nouveau pour le contrôle de John.
D'accord.
Les actions classiques, c'est... Alors, une action, si vous avez trois compétences que vous allez choisir au début du jeu, qui sont des compétences assez lâches. Si vous avez une compétence pour réussir l'action, vous réussissez l'action sur 4, 5 ou 6. On lance un des 6.
D'accord.
Sur 4, 5 ou 6, vous réussissez l'action. Sur 1, 2 ou 3, vous perdez l'action et donc vous perdez aussi le contrôle de John. Et après, si c'est une action pour laquelle vous n'avez pas de compétences, il faut faire un 6. Si vous ne faites pas un 6, vous perdez le contrôle de John.
D'accord.
Alors, ça ne veut pas dire qu'il réussit ou qu'il rate son action. Ça veut dire que vous perdez le contrôle de John. Un autre peut rattraper l'action en faisant une autre action derrière.
Tu cherches quoi, Pierre, là? Tu cherches ton PC?
Ouais. Ah, faut des dés, il faut des tokens aussi.
Ah, les dés, ils sont dans... T'inquiète pas, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a. Et je sens que ce podcast va tourner autour de la question « Est-ce que ce jeu est un jeu de rôle
voilà,
ou pas ?»
Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez que c'est du jeu de rôle ou pas? Est-ce qu'on est aux frontières du réel et du jeu?
On va essayer quand même aussi de critiquer le jeu en tant que tel. Oui. Et il date de quand ce jeu? Est-ce que tu as son histoire
C'est bonne question, on va voir ça.
Il me semble que c'est un vieux jeu.
C'est un jeu qui date de 2002.
Ah non,
qui est de Michael B. Sullivan.
D'accord, ah bah tu vois, je pensais qu'il était plus ancien.
Et qu'on trouve en dispo sur le net.
L'auteur préconise une partie de 30 minutes ou c'est toi, de ton expérience,
c'est moi qui me suis rendu compte que au bout de 30 minutes, vous allez grave vous faire chier.
Ça veut dire qu'il y a joué plusieurs fois aussi.
Ouais. Et j'adore, après c'est difficile de trouver des joueurs parce qu'il faut des joueurs qui aiment le jeu de rôle et qui aiment le jeu de plateau et c'est pas toujours facile. Il y en a certains qui vont vouloir faire de l'immersion et que, oh mon Dieu, mais on peut pas s'immerger dans John, mais on s'en fout parce que John, il est barge, il est stupide, il s'appelle John Doe. Hein, c'est...
Ah oui, c'est vrai. Alors, John Doe, oui, ça part mal, hein, ça c'est sûr.
Je suis pas moqueur. Hein.
Bon, allez, on va s'immerger dans John, c'est parti. Voilà, fin de la partie de Tout le monde est John, tout le monde est en speed. Tout le monde est John et tout le monde est en speed.
On est à fond, on vient juste sortir du jeu.
Il y a 23 minutes de jeu, on a joué 23 minutes, c'était bref, intense.
Et encore, on a vachement traîné au départ, parce que j'ai vu que la première perte de contrôle de John, c'est au bout de 7 minutes, en fait. J'ai regardé, donc en fait, les 7 premières minutes ont été assez longues.
Parce que c'était les plus marrantes.
On a posé la situation et parce que...
C'était les plus marrantes.
Et t'avais pas trop l'habitude, en fait. Du coup, après, ça enchaînait vite.
On était en plein setting, en fait, et tu me présentais un petit peu le... Donc, on raconte rapidement le setting incroyable. Je suis John, je suis au volant d'une voiture qui vient de se prendre un cactus. Je me réveille, je suis inconscient au-dessus du volant.
Désert,
je me suis pris un cactus, je suis en plein désert. Je suis habillé en femme avec le string. Je suis avec une perruque, je suis en barésille. Dans le coffre, j'entends quelque chose qui fait du bruit. Donc, j'imagine qu'il y a quelqu'un dans le coffre de ma voiture accidentée. Je sors de ma bagnole, là, j'entends les gyrophares des flics qui arrivent. J'essaye de prendre mes clés pour ouvrir le coffre de la bagnole, mais les flics arrivent à mon contact. J'aperçois sur la plage arrière de ma voiture une plaque avec écrit FBI. Voilà, j'essaye vaguement de dire au gars de baragouiner un truc que je suis du FBI et que tout va bien. Je laisse un mec sur le carreau avec le Maccabée avec le gars dans le coffre. Je pars, je commence à séduire le policier et je gagne un premier point de victoire. Enfin, deux.
J'ai merdé un peu là sur la situation parce que je j'avais pas trop en tête tes points de victoire. Donc en fait, t'aurais dû marquer la première action à 1 et j'aurais dû te couper à 1.
Être enfermé seul avec un homme dans une voiture, ça comptait. Ouais.
Donc comme c'était ta condition de victoire, c'était être enfermé seul.
Ouais.
À partir du moment où t'étais avec le mec dans la voiture, j'aurais dû considérer que t'avais accompli ton objectif.
D'accord.
C'est
voilà.
Là où j'ai un peu merdé.
Donc moi, voilà, je suis YMCA, donc le murmure de Jack. L'homosexualité, je suis l'homo. L'homosexualité refoulée de Jack, de John, pardon, excusez-moi, c'est Fight Club.
j'ai compris ça.
Donc ces conditions de victoire.
Je suis l'homosexualité refoulée de John. Mes conditions de victoire sont 1. Être enfermé seul avec un homme.
Qui te rapporte un point de victoire.
Voilà. 2. Séduire un homme. 2 points de victoire.
Quatre points de victoire, en fait, si tu marques ce...
C'est bizarre ça, pourquoi ils n'ont pas écrit sur les filles? Alors, première petite critique vis-à-vis du jeu, pourquoi est-ce qu'ils n'écrivent pas directement le nombre de points de victoire que ça rapporte?
Ouais, d'accord. Je sais, c'est un peu tordu, en fait, parce que tu les multiplies par 3, ou alors il y a un truc que j'ai mal lu, j'ai fait ça un peu vite, mais...
Je pense que t'étais bourré à ce moment-là, je pense.
Oui. Il y a des choses qui méritent d'être lues, parce que, tu sais, le cas d'égalité, par exemple, j'ai un peu merdé là-dessus, j'avais pas relu cette règle, et c'est vrai qu'on a dû la relire ensemble.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe en cas d'égalité?
Alors, comment expliquer? Chacun d'entre nous a un objectif, a plusieurs objectifs à réaliser. Toi, au final, Darky, c'était quoi?
Moi, j'étais bad boys, what you gonna do? J'étais le côté flic ripou de John. Et donc, mon premier objectif, c'était provoquer les gens pour 1 point. Et le deuxième objectif, c'était tabasser quelqu'un pour 4 points.
C'est bien. Super. C'est tout ça, c'est très positif, ton personnage. Et toi, c'était quoi, Jérémy?
J'étais macho man. J'homme, c'est un homme, un vrai. Pour un point, il fallait que j'aie une attitude de beauf.
Alors j'étais assez tolérant sur les attitudes beauf, hein, vous l'avez remarqué.
Oui, c'est une interprétation. Hein.
Donc voilà. L'interprétation du beauf, selon Jérémy, c'est musique à fond dans une voiture de kéké.
Et pour 4 points, c'était montrer à une femme qui c'est le patron.
Ah oui.
Quand tu t'es touché au milieu du truc, là, c'était pour ça.
C'était pour le côté
c'était
beauf.
C'était le côté beauf. Je mets la main dans
c'est
le calbut.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'il a fait faire à John une action incroyable, c'est-à-dire s'asseoir à un bar et mettre la main dans son calbut et il a gagné un point de victoire quand, tranquillement. Pierre.
Bah moi à côté, putain, c'était super dur. Hein.
Ouais, c'était chaud. Ouais.
Alors moi j'étais le bon flic comme dans les films, protect and serve. Alors ma première condition de victoire c'était protéger les innocents qui m'ont rapporté un point. Mmh. Et la deuxième c'était sauver la vie de quelqu'un, méchant compris, qui m'a rapporté 4 points.
Ouais. T'as réussi quand même à sauver la vie de quelqu'un à un moment donné.
Ouais, mais tout ce que j'ai dû faire, dépenser pour arriver là, c'est super dur. Ouais, ouais.
Pour moi, le moment, il y a un moment donné où t'as. Attends, c'est toi qui as écarté la personne Pedro de.
Ouais, du
de...
feu.
Ah,
pour
merde, d'accord, ouais. Et là, t'as pas gagné 4 points de victoire
si,
à ce moment-là.
Si, si. Bah, c'est l'unique moment où j'ai gagné des points.
Mais non, le massage cardiaque là.
Ouais, voilà, non, en fait, le massage cardiaque m'a permis de sauver la vie et après, j'ai protégé un innocent. C'était Pedro, l'histoire de la station de service. Mais en fait, enfin. Moi, ce que je trouve super difficile, c'est que là-dedans, ça inclut plein d'actions possibles et que comme on n'a que 3 compétences...
Mmh. Wow, alors ouais, voilà, là c'est pareil, c'est votre première partie de Tool Manager, donc pour vos compétences, alors c'est un système de compétences libres, on choisit 3 compétences libres, mais il faut vraiment les axer, comment faire pour avoir des points de victoire. Donc il faut vraiment, c'est souvent assez chaud à définir, c'est vrai que t'en avais un super chaud, celui-là était super chaud en fait, le plus chaud des 4 honnêtement.
Comment tu veux qu'on procède, Rome? Est-ce qu'on peut déjà commencer, parce qu'on là on est parti
on sur... débrief, on débrief, sur... on débrief, okay. On y va.
Bon alors débrief du coup j'ai commencé sur ma personnalité de bon flic là, du coup quand j'ai choisi mes 3 compétences, le bon flic comme dans les films, protéger les innocents, sauver la vie de quelqu'un, méchant compris, ça m'a vachement orienté sur bon bah on va se fighter, va y avoir du combat ou va y avoir des affrontements avec des personnes. Du coup, mes 3 compétences que j'ai choisies, c'est je me bats super bien, j'endure super bien la douleur, donc pour pouvoir m'interposer, prendre des dégâts à la place de quelqu'un. Voilà ce que Julien m'avait suggéré au début. Et puis, j'esquive super bien pour quand même éviter de me prendre des blessures, parce que si John meurt, le jeu s'arrête.
Alors, il y avait un petit problème, c'est qu'en fait, Romaric, ton personnage est parti, mais en fait, c'était pas dans ton objectif. Donc, c'est vrai que toi, t'en avais rien à foutre. Mais il y a évidemment dans la voiture un flingue que tu n'as pas pris. Et donc, du coup, qui met un peu les autres dans la mouise parce que du coup, ils n'ont pas le flingue pour menacer, pour se battre et tout ça. Donc, évidemment, l'idée du premier derrière qui aurait dû récupérer John, c'était de retourner à la voiture pour récupérer le flingue.
D'accord.
Ou alors le demander à un des autres parce que c'est vrai qu'il y a un moment, toi, tu aurais dû avoir un flingue.
Mais, ouais, c'est ça. Ouais.
C'est. Parce donc que il faut t'arranger pour en choper un, il y avait des flics à côté de toi, mais vous n'avez pas pensé à demander à l'autre, montrant le badge et demander le flingue ou des trucs comme ça.
Alors on était interdit de penser.
Ouais. Non, ça dure tellement vite.
Ouais, ça va tellement vite que...
Et d'ailleurs, il y a quelques fois, je vous ai dit que normalement, c'était comme dans du jeu traditionnel, je devais assumer la narration, et je vous ai laissé assez maladroitement, parce que ça va vite pour moi aussi, je vous ai laissé prendre la main sur la narration, ce que j'aurais pas dû faire du tout.
Ça, c'était méga frustrant. Quand tu prenais John et que toi, tu nous regardais en disant rien, et donc du coup, on devait repartir de zéro.
Là, je vous avoue que j'ai merdé un peu, parce qu'en fait, je me suis fait avoir par Pierre, qui a à un moment pris la main sur la narration. Et en fait, je trouvais que ça c'est sympa, donc je l'ai laissé faire. Et du coup.
Mais tu sais que.
Je t'avoue que j'étais pas du tout conscient qu'il fallait.
C'est moi qui ai merdé. Mais...
Juste un point par rapport à ça. Dans le jeu de rôle traditionnel, classico-classique, le jeu de rôle à papa, tu as le droit de laisser un joueur faire une narration. C'est juste que le maître de jeu
a
l'autorité finale.
Là, honnêtement, il ne faut pas. Voilà. Il ne faut pas laisser parce que c'est trop facile, sinon tu t'attribues toi-même les conditions de victoire. Et c'est là aussi, amende honorable.
Dans le jeu classique.
J'ai pas joué depuis longtemps, j'ai merdé parce que normalement, je dois. Prendre le contrôle. Il faut absolument que dans ce jeu de rôle-là ou jeu de société, c'est la question, il faut absolument que le jeu garde toute autorité sur les PNJ et toute autorité sur les...
Et du coup, tu mets les joueurs face à quoi quand un joueur revient de prendre John? Là, tu lui mets quoi comme histoire devant?
Alors, en fait, il y a un scénario qui est beaucoup plus fouillé finalement. Vous n'avez même pas effleuré le quart du dixième du scénario. Comme quoi, dans John, les scénarios sont... Parce qu'en fait, finalement, vous ne savez pas du tout pourquoi il est là, John.
Non.
En fait, il y a un vrai motif. Il y a un vrai scénar écrit qui fait 3 pages. et en fait, vous n'avez même pas eu le temps de l'aborder. Vous voyez, c'est ça vrai. Qui est assez frustrant, même en tant que maître de jeu. Oui, oui, parce qu'il y a une raison pourquoi il est là dans le désert. Il enquête, en fait, sur un gang qui trafique des... sur des prostituées.
Je pense qu'on n'a pas joué à John, du coup, là.
Oui, non, mais c'est normal, mais c'est...
C'est
normal. Je pense que c'est la grosse ambiguïté de John. C'est-à-dire que, quelquefois, les gens qui jouent à Tout le monde est John font des scénarios qui sont... qui sont des vrais scénarios de jeu de rôle, finalement.
D'accord.
Parce que là, y a un... derrière, il y a quelque chose qui ressemble à un vrai scénario de jeu de rôle, en fait.
Mais tu l'avais présenté aussi comme l'idée, attention, ne tombez pas dans le côté roleplay en tant que rôliste. Et donc, du coup, on n'a pas cherché. Ouais.
Mais vous avez raison.
L'objectif, c'était faire du point. Donc, on a vraiment pris la narration pour essayer de faire du point.
On a scoré, quoi, en fait.
Oui, non, mais vous avez raison. Hein, c'est un peu...
Ouais. Mmh. Alors, question. Bon, déjà, il faut peut-être expliquer aussi que pour prendre le contrôle de John, on a un pool de points devant nous. Je ne sais pas si ça a été expliqué.
Ouais, les points de volonté. Tu as 10 points de volonté qui te permettent de prendre le contrôle de John.
Chacun a 10 points.
Voilà.
Et on va mettre les petites pierres. On a 10 petites pierres devant nous. On va mettre les petites pierres dans nos mains, mettre nos mains au milieu de la table façon Chevalier Zodiac qui rassemble sa cosmo-énergie. On retourne et on regarde le nombre de saphirs d'Odin qu'on a dans les mains, enfin le nombre de pierres qu'on a dans les mains. Et là, à ce moment-là, celui qui en a le plus prend la narration.
En les déversant. Ce qui fait qu'on a de moins en moins de points de victoire.
On les perd. Ça s'appelle une mise en enchère, mais cachée.
Mmh, d'accord. Exactement, ouais.
Et donc, il fait des actions. Et jusqu'à ce qu'il rate une action, dans ce cas-là, on repart sur un vote général pour savoir qui va prendre le contrôle de John. Ou alors, il gagne un point de victoire. Enfin, il gagne une de ces conditions qu'on a lues tout à l'heure. Ouais. Voilà. Mmh. Ou alors, il accomplit une condition de victoire d'un des autres joueurs. Et dans ce cas-là, hop, cet autre joueur marque des points. Et on repasse à savoir qui va prendre le contrôle de John.
Donc on prend le contrôle de John, mais on ne prend pas le contrôle de la narration. On prend le contrôle uniquement
du personnage.
Du personnage, voilà, c'est ça hein, qu'il faut bien.
Sachant que les actions que tu fais peuvent donner des conditions de victoire aux autres. Alors c'est vrai qu'il faut être hyper réactif. Et vous avez vu, il y a des moments. Bon, je pense que c'est parce que on tourne ça un peu en soirée assez tard, où j'ai été moins réactif. Et je pense les uns et les autres, on n'avait pas vu qu'on avait fait une condition de victoire. Ou
ouais, voilà, c'est ça. Ouais,
la tienne, être enfermé seul avec un homme.
Ouais, il y a des moments où ça se réalisait tout le temps, en fait.
Voilà. Et tu devais perdre. Et John devait perdre le contrôle automatiquement, mais il reperde presque l'instant d'après parce que.
Donc c'est bizarre ça d'ailleurs, ça bug à moitié le système.
Ouais, ouais.
Alors du coup, est-ce que le MJ ne doit pas se positionner par rapport à ça en disant... alors c'est vrai que la condition de victoire, elle est très vague, se retrouver dans une pièce avec un homme, mais dans le cas de figure, quand ça a été le cas, t'étais dans un bar en flammes.
Ouais. C'est lui qui l'avait dit en plus, il y a une alarme incendie, tout le monde fout le camp sauf un, on ne sait pas pourquoi.
C'est ça,
oui, là c'est vrai que
tu t'es retrouvé avec le flic qui était inconscient.
C'est un peu un truc, c'est que là il a repris le contrôle de la narration et c'est moi qui aurais dû le faire en fait. Faire, mais c'est de ma faute.
Le flic était inconscient, c'est ça? Tu t'es retrouvé seul dans le bar en flamme avec l'alarme incendie. Le flic inconscient, il t'a dit « Ah, je suis enfermé avec un homme !»
Oui, mais parce que c'est le truc, être enfermé avec seul avec un homme, ce qui est assez flou, en fait. On est dans un jeu qui est typiquement... qui est volontairement flou. Ah.
Non, mais je suis d'accord. Là, c'est un abus total de narration.
Ouais,
en fait,
non, c'est clair. J'aurais pas dû le laisser prendre le contrôle.
Ah voilà, toi tu penses qu'en tant que MJ, tu aurais pas dû dire non.
Alors, déjà, il y a plein de choses qui sont passées. C'est-à-dire qu'il a sonné l'alarme et j'aurais dû l'arrêter là. C'est-à-dire, à partir du moment où il sonne l'alarme, c'est moi qui décide qui fuit, qui reste dans la salle. Oui, voilà, c'est ça. Lui, tu les as fait. Tu m'as dit.
J'ai pris l'autorité sur tous tes PNJ d'un coup.
Voilà, je sonne l'alarme, tout le monde sort. Donc, du coup, c'est vrai que c'était un peu un abus d'autorité.
Complètement.
Après, c'est le jeu. Prête pas, non, c'est pas un jeu super sérieux, donc
ouais, complètement. Après,
c'est pas du tout qu'on le prenne au
justement
sérieux.
C'est ça le point. C'est que je pense que ce jeu dépend énormément du rythme imposé par le meneur de jeu, et j'en veux pour preuve le fait que c'est toi en tant que meneur qui décide quand le joueur lance le dé.
Voilà, c'est ça.
Donc, en quelque sorte, c'est ce qu'on explique souvent dans le jeu de rôle classique, c'est que s'il n'est pas précisé spécifiquement dans un jeu de rôle classique quand les jets doivent être faits, c'est souvent le meneur qui décide quand les joueurs ratent et quand les joueurs réussissent, ou en tout cas quand les joueurs peuvent rater et peuvent réussir. Là, par exemple, il y a des moments où je t'ai vu faire lancer le dé à Darky pour le fait qu'il respire. Enfin, à un moment donné, il court, lance le dé.
Ouais, là, voilà. Là, c'était vraiment parce que je voulais
accélérer, poser couper.
Il a dit... Alors, l'idée, c'est... La règle est hyper floue dans le jeu, c'est chaque fois qu'il fait une action qu'il peut rater, John fait un jet. Sachant que là encore, l'interprétation de
courir,
une action qu'on peut rater,
ça peut rater.
Je me suis dit,
rattraper,
il a couru
c'est
vite.
C'est pas juste courir, c'est rattraper le gars qui est déjà en train de courir.
C'est rattraper le gars devant qui était déjà... Alors c'est vrai qu'après, on est dans tout l'abus du jeu, dans toute sa splendeur.
Tout l'abus
mais
de John.
Je crois que le jeu s'y prête en fait.
Ouais.
Et c'est timé comme ça les parties, c'est parce qu'en fait j'ai l'impression qu'on a joué une version bien spécifique, on n'a pas fait le scénario et c'était hyper timé.
Ouais. J'ai fait ça volontairement parce que j'ai eu plusieurs mauvaises expériences avec ce jeu.
D'accord.
C'est-à-dire des joueurs qui se sont lancés dans une partie de jeu de rôle classique et le problème c'est que le format du scénario s'y prête assez bien. Et du coup, ils ont fait le scénario. Ouais, très bien. Mais du coup, à la fin, un, ils ne se dépensaient jamais de points de volonté. Deux, les conditions de victoire, ils les réalisaient à peu près jamais.
Ah,
parce
oui.
qu'ils étaient dans du roleplay. Lui, ses conditions de victoire, c'est être enfermé seul avec un homme, séduire un homme. Si tu fais ça en roleplay, que tu lui laisses passer 5 minutes, prendre un verre avec le gars et tout...
Ouais, puis alors, en plus,
on est sur 3 heures de jeu, on est sur... Et en plus, si vraiment il y en a un qui avait... Et c'est pour ça que j'ai voulu couper court à tout ça. Si vraiment vous essayez de comprendre pourquoi il s'est retrouvé là, habillé en femme, dans le désert, en étant du FBI... Ça va vous demander de la réflexion. Et là, on va parasiter le côté condition de victoire. C'est-à-dire, votre condition de victoire inconsciente, ça va être de vouloir résoudre le puzzle. Mais ce qui n'est pas dans vos conditions de victoire et ce qui ne vous rapporte rien du tout.
Mais peut-être que le jeu est basé sur le fait qu'on a envie de courir les deux lièvres, normalement, qu'on doit à la fois envie de... Okay. Ouais. Là, on a fait
et
qu'un
c'est
pan.
Le... Voilà, on a fait... Et puis, je vous avais mis la pression en mettant un chrono.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait...
En fait, j'ai l'impression de jouer à Apocalypse World dans lequel le MJ s'est dit, mais en fait, le côté improvisation, c'est génial, il fait que ça, tu
sais. Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que tu fais?
Je vous ai mis la pression en permanence, j'étais sur vous en permanence, il y avait le compteur en disant ça tourne, et je vous laissais pas le temps, je vous laissais pas 2 minutes à réfléchir.
Ouais, c'est ça. C'est en fait la proposition créative du jeu, on va dire, elle est pas du tout claire. C'est-à-dire, on peut faire de tout en fait dans ce jeu. On peut chercher.
Ouais, un scénario. Enfin. C'est clairement un objectif ludique. Tu dois marquer des points de victoire.
Oui, mais justement, ça, c'est, après, ça voilà. ta version l'impose vachement.
Voilà, c'est ça.
Mais je pense que le jeu en lui-même, si on veut, on peut jouer. Alors pas
une partie en partie normale. Hein.
Quoique, si narrativiste.
Eh ben, écoute, honnêtement, quand tu vois le scénario qu'il y a derrière, il y a un vrai scénario derrière. Qui pourrait occuper, honnêtement, un jeu traditionnel sur une partie de 4 heures. Hein. Parce qu'il y a un vrai enjeu, il s'est déguisé en femme, je te dis, pour infiltrer un gang qui fait du trafic de femmes, la police s'est mêlée dedans. Ouais. En fait, c'est qu'il y a des flics ripoux.
En fait, ce jeu pourrait presque être intéressant s'il n'y avait pas ces points de victoire qui rendaient ludiste artificiellement, non?
Alors... en fait, voilà, c'était la question que je vous posais au départ. Pour vous, est-ce que c'est un jeu de société ou est-ce que c'est un jeu de...
Voilà. Jérémy.
Je pense que là, on va commencer à se poser la question. Est-ce que c'est un jeu de rôle? Comment on l'a joué? Non, on l'a joué en effet pour avoir un certain rythme, on l'a joué pour essayer d'obtenir nos coups, pour ensuite rapporter des points. Mais si on avait décidé de dire, allez hop, on enlève ce côté score, on fait juste le scénario avec quand même les points de volonté, peut-être que là, on aurait été plus dans du jeu de rôle.
Pour moi, clairement, c'était un jeu de rôle, ce qu'on vient de faire.
Pour moi, je suis mitigé. Je pense qu'il y avait des choses qui étaient de l'ordre du jeu de rôle. Il y avait des mécanismes qu'on trouve dans des jeux de société, mais qui peuvent être aussi utilisés dans le jeu de rôle. Ça ne m'a pas gêné en ça.
Ouais.
Mais c'est l'idée de se dire qu'en 20 minutes, notre objectif, c'était vraiment de marquer des points. Et au bout d'un moment, le rôle, c'était vraiment secondaire. C'était marrant au départ, parce qu'on découvrait un peu justement la multiple personnalité de John.
Ouais.
Par chacun d'entre nous, donc ça nous a fait très marrer de voir qu'est-ce qu'il dit le joueur. Et là, pour le coup, on était vraiment dans du jeu de rôle. Puis au bout d'un moment, on commençait à comprendre un peu les motivations de chacun, et ça commençait à venir répétitif en disant moi je bagarre, moi je séduis, moi je fais ci. Et puis au bout d'un moment, en fait, on se dit il ne reste plus qu'à gérer les points bien comme il faut derrière. Et là, il n'y avait plus de jeu de rôle. Les jeux de rôle, en fait, ils étaient vraiment pour moi au départ. On a vraiment déliré à essayer de trouver des propositions et à...
Attention à ton micro, Jérémy.
Excuse-moi.
D'accord.
À trouver des propositions au départ. Et plus on avançait dans le jeu, et moins on était dans le jeu de rôle, et plus on était dans le jeu de société.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Pierre ?
Je suis quasiment entièrement d'accord avec Jérémy. Il y a juste un point qu'il faut retenir, c'est que à la fin du jeu, comme les autres joueurs ont compris quelle était notre personnalité et du coup vont essayer de nous empêcher de marquer des points, donc de nous trouver dans des situations, il va falloir recourir énormément à l'imagination pour trouver d'autres situations pour justement se retrouver pour avoir une optique de marquer des points.
Mais théoriquement, c'est pas à toi d'imaginer les situations. C'est au maître de jeu de te les donner.
J'ai un peu abusé, ouais. Là, j'ai un peu... Ouais, il y a un truc que j'ai merdé avec vous. Tu peux
en fait influencer la volonté de John d'aller...
Mais pas
la situation.
Non, les règles sont précises là-dessus, t'influes pas la narration. Hein. Ouais. Il y a aucun moment, ils disent que t'influes la narration.
Donc
c'est le jeu qui doit garder tout.
Oui, mais tu dois quand même réfléchir à des actions qui vont te placer dans des positions où tu vas pouvoir réaliser ta condition de victoire et qui sont de plus en plus difficiles. Donc il va falloir que tu prennes en compte la mécanique de chaque joueur, puisqu'ils ont des mécaniques d'objectifs différentes, et du coup que tu les intègres aux tiennes, etc., etc. Donc il y a quand même un gros. C'est plus juste de l'application bête, on va dire, et méchante.
Pour moi, c'est ça qui est mal fait. Le jeu, honnêtement, tu remplaces les objectifs. Tu vois, là, on avait deux objectifs, d'accord ? Tu fais un système différent. Au début, tu donnes à chaque joueur un objectif. Mmh. Une fois que l'objectif est réalisé, il retourne la carte, il pioche une autre carte avec un autre objectif. Tu fais ça, c'est énorme. Ça peut vite devenir un jeu de rôle assez intéressant, en fait. Parce que du coup, tu te retrouves dans un truc où on ne sait jamais trop ce que l'autre a pioché, même s'il y a peut-être une cohérence, il y a peut-être une couleur de carte qui va t'indiquer qu'on est plus dans la séduction, dans la relation. Je ne sais pas, il y a matière à faire quelque chose. Mais
pour vous, on est clairement dans un jeu de...
C'est-à-dire... Pour moi, c'est clairement un jeu de rôle.
Ah ouais, clairement. Et alors que pour Pierre et pour toi, Jérémy, c'est un jeu de société.
Moi, vas-y, Pierre, je t'en prie.
Ouais,
dans l'état, je veux dire, dans l'état des règles qui sont,
pour moi, ce que ça pourrait devenir
ou ce que ça pourrait être. Moi, ce qui m'intéresse, c'est dans l'état où il est
actuellement.
Est-ce que tu considères que c'est un jeu de rôle?
Ah oui, c'est un jeu de rôle. Voilà. Oui. Mauvais jeu de rôle, mais un jeu de rôle.
Toi, tu considères que c'est un jeu de société?
Plus, même si je vois bien les éléments jeu de rôle, pour moi, on est plus dans du jeu de société.
D'accord.
Alors.
En l'état.
Jérémy, je t'en prie, vas-y, développe. Je sais pas si...
Non, parce que c'est dans l'état que c'est intéressant.
En l'état, pour moi, c'est un mauvais jeu de rôle. Mais attention,
d'accord.
Il apporte quand même des choses intéressantes. C'est pas en soi un mauvais jeu de rôle. Il y a plein de choses intéressantes dans ce jeu de rôle. Donc, pour moi, il mériterait d'être retravaillé. Enfin, il y a des choses à approfondir.
C'est intéressant, ton point de vue.
Regarde comment j'ai joué, comment vous avez joué. Au bout d'un moment, au départ, les mises, on avait déjà tous commencé par miser 0. Donc ça veut dire que les gens s'est dit on va laisser l'initiative à quelqu'un.
Ouais, mais ça c'est peut-être parce qu'on savait pas trop.
Ça justement c'est un peu le départ, on laisse le truc. Ensuite j'ai pris la main avec 4 points sur 10.
Ouais.
Ce qui était énorme. Et donc du coup vous avez commencé à miser gros. Mmh. Et vous étiez dans le jeu, mais moi j'observais les pions qui se vidaient. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, moi, je baissais en fait, mes mises.
T'es resté le dernier en jeu, pour que les auditeurs comprennent. T'es resté le dernier en fait, avec la pointe de volonté.
Et à la fin,
le dernier
en fait,
à pouvoir prendre le contrôle.
Exactement. En fait. C'est-à-dire que j'étais le premier à perdre 4 points, donc je passe à 6 points.
Savoir aussi que Jérémy a gagné. Donc la stratégie qu'il est en train de vous donner, c'est la stratégie gagnante, presque.
Et à la fin, il me restait 4-5 points. J'étais quasiment tout seul. Donc du coup, j'ai gagné tous les points à la fin. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai gagné. Si on considère du coup que l'objectif, c'est le score. Mais à l'état, apparemment, l'objectif, c'est avoir le meilleur score.
Oui, tout à fait. Ouais.
Mais c'est ça que je me demande. Justement, à chaque fois que j'ai ce jeu-là, il y a un côté intéressant parce que pour moi, il est vraiment aux limites des deux genres.
Alors oui, mais je veux dire, si on prend un jeu de rôle traditionnel comme D&D, 3.5, le but du jeu, c'est aussi, à la fin, de gagner de l'expérience, de rassembler des pièces, d'être le meilleur à avoir, dans le donjon, à avoir le mieux optimisé son personnage pour finalement qu'il soit effectivement le meilleur en action. Il y a du scoring. Je te vois grimacer, mais il y a du scoring. Donc la dimension de monter une stratégie pour faire du score n'est pas exclusif au jeu de plateau. Il fait aussi partie de dynamiques ludistes qui se retrouvent dans le jeu de rôle. Donc ce n'est pas un argument suffisant pour moi pour exclure qu'un jeu soit un jeu de rôle ou pas, déjà. Ce n'est pas parce qu'on poursuit un objectif ludiste, compétitif, qu'on n'est pas dans du jeu de rôle. Donc il va falloir, Jérémy, que tu développes pour...
Je pense que si tu me permets, je voulais juste faire un tour de table avant que vous développiez vos arguments. Parce que ce qui était intéressant, c'était la première impression que vous aviez. D'accord. C'est-à-dire, à première impression, à chaud pour vous, c'est plutôt un jeu de rôle, plutôt un jeu de société. D'accord. Donc j'aimerais l'avis de Darky aussi.
Mon avis premier, c'est jeu de rôle, c'est clair.
Et Pierre, toi, c'est ton avis premier. Reviens à ton avis premier, oublie tout ce qu'on a dit là.
Mon avis premier, honnêtement, je sais pas, j'arrive
pas
à trancher.
Jeu de société, t'avais dit, non?
Je sais pas.
Non.
Honnêtement,
clairement, Jérémy, c'est jeu de société. Clairement pour toi, plus, ok.
Après, avant de développer les arguments, parce que ce qui est bien, c'est le a priori, quoi.
Ouais.
Toi, c'était. Bah,
moi,
je savais pas
qu'il y a des deux. Il y a vraiment des deux. Et je pense que ce sera plus l'expérience que chaque joueur voudra bien mettre dedans qui conditionnera.
Et toi, Darky, c'était quoi ta toute première impression au sortir du jeu de société, jeu de rôle? Enfin, ou entre les deux.
Toute première, je me suis dit, ça a dû être un jeu de rôle parce qu'on a essayé d'y jouer comme un jeu de société et ça n'a pas marché. Mais après, au final, on se base sur ton ressenti qui est, oui, mais moi, j'ai essayé d'y jouer comme un jeu de rôle et ça n'a pas marché.
Ah, c'est marrant, ça. C'est en fait.
Je sais pas ce que c'est, mais c'est dysfonctionnel.
Si je choisis d'y jouer comme un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle. Si j'ai choisi d'y jouer comme un jeu de société, c'est un jeu de société.
En vrai, déjà, je suis très très mal à l'aise de parler de ça déjà parce que je suis pas sûr qu'on ait fait une partie qui
résonne sur ce
que c'est. Et deux, présentation en fait. Du coup,
c'est pour lire. J'aimerais bien le lire pour savoir ce que lui prétend, ce que lui propose. Parce qu'au final, tu dis, au final, il y a 3 pages de scénario. Donc pour moi, ça a déjà forcément vocation à être un peu du jeu de rôle. Ensuite, effectivement, il y a un mécanisme ludique. Qui ne veut pas forcément dire que c'est un jeu de plateau, je suis d'accord avec toi, Ram, mais on comprend quand même qu'il y a un peu le jeu, haha, je mets des points, je mise, je fais en sorte que les autres dépensent ou pas pour gagner. Donc, désolé pour ma réponse de Normand, je pense que c'est un peu des deux, et là ce soir on a essayé d'y jouer comme un jeu de société.
D'accord. Donc ce serait moi en fait qui aurais orienté ça vers un jeu de société.
Ah, clairement, déjà tu nous as dit faites pas le scénario, et deux, faut que ça aille vite, vous réfléchissez pas. Je pense que oui, toi t'as voulu en faire un jeu de société.
D'accord.
Pierre, puis ensuite j'aurais une question à poser à Julien. Pierre.
Juste en fait, je voulais rebondir tout à l'heure sur ce que tu as dit, Ram, tu disais en fait si comment
vas-y non je dis oh merde parce que c'était pas du tout ce que j'avais prévu au niveau du tour de parole, mais vas-y, fais ton truc.
Ok, je vais être rapide hein. Juste t'as dit en fait ce qui bloque et ce qui transforme ça en jeu de plateau, c'est qu'en fait on a des objectifs et une fois qu'on les a réalisés, c'est toujours les mêmes, donc il faut retrouver des situations. C'est toi Jérémy qui avait dit ça, qu'il faut retrouver des situations qui sont toujours les mêmes pour remarquer des points, etc.
C'est à dire que là à ce moment là ça devient une machine à saucisses.
À ce moment-là, tu as dit, ce qu'il faudrait faire, c'est que dès qu'on a réalisé un objectif, qu'on a gagné des points, on défausse la carte et on reprend un nouvel objectif et ça change. Et là, ça devient beaucoup plus du jeu de rôle. Et ben moi, je suis pas d'accord avec toi parce qu'à ce moment-là, chaque joueur se retrouve à jouer dans son coin avec une situation qui lui appartient en main propre. Et du coup, on se retrouve dans le cas de certains jeux de plateau où en fait, chaque joueur va optimiser une stratégie dans son coin sans avoir d'interaction avec d'autres, va scorer des points et personne ne peut rien y faire. Et à la fin, on termine un jeu où
cette option-là, je la prenais dans le cadre où c'est encore Julien qui a le contrôle de tous les PNJ et du décor, ça change tout. Ça change complètement tout.
J'ai merdé là-dessus.
Excuse-moi. Dans la partie telle qu'on l'a jouée là, je suis d'accord avec toi.
D'accord.
Ouais. Ah oui, dans la partie telle qu'on l'a jouée là, je suis totalement d'accord avec toi, Pierre. Il y a no soucis.
Mais du coup, ce qui fait que j'ai un avis qui est peut-être un peu différent, c'est que cette partie-là, moi, je l'associerais plus finalement à du jeu de rôle. Et la partie que tu décrirais, l'amélioration entre guillemets, passerait plus pour moi du côté
Amélioration plus meneur de jeu avec autorité. Ouais.
En fait, c'est marrant parce que je rebondis sur ce que Darky a dit. En fait, c'est ma vision finalement du jeu qui a orienté la partie.
C'est ce que je te disais que le meneur de jeu a énormément d'importance dans.
Départ, si je vous avais pas fait le speech, je sais pas si vous seriez pas parti sur du jeu de rôle.
Mais si c'est possible, hein. Si c'est possible. C'est possible et peut-être l'expérience aurait été plus optimale pour.
Je sais que l'expérience en tant que jeu de rôle en soi m'avait laissé sur une fin pas intéressante parce que je trouvais qu'il y avait, pas mal de ventre mou. En tant que jeu de rôle, tu vois.
Alors, ce qui est très important à préciser pour les auditeurs, mais aussi pour toi, Julien, qui n'est pas habitué spécialement au format de cette émission, c'est qu'il faut bien savoir que dans un one-shot, on parle beaucoup du jeu, mais dans le fond, ce qu'on juge, c'est la partie. Et que, voilà, là, aujourd'hui, il est clair pour les auditeurs que, voilà, t'as fait des torsions sur le jeu, etc. Voilà. Et donc, dit le jeu est bon, le jeu est mauvais, entendons-nous bien, le contexte de cette partie, telle que nous l'avons ressentie, etc. On recalibre aussi. Donc, il est possible, je dis bien possible, que des auditeurs aient joué à ce jeu avec des et que ça ait super bien fonctionné, qu'ils aient eu des... Voilà. Je n'en sais rien. On parle juste de la partie de ce soir. Et moi, pour moi, c'est clairement du jeu de rôle. J'ai pas eu encore le temps vraiment de développer mes arguments. C'est clairement du jeu de rôle parce que on est jusqu'à la phase où on connaît chacun des objectifs et où là, ça devient une machine à saucisses. Avant ça, c'est clairement du jeu de rôle parce qu'on est dans l'imagination de situations possibles et dans l'élaboration d'un contenu fictionnel qui évolue en fonction de ce que les joueurs en disent autour de la table. Et ça, clairement, c'est ma définition très personnelle de ce qu'est un jeu de rôle. Maintenant, il n'y a qu'une seule manière de savoir officiellement si le jeu est un jeu de rôle ou pas, c'est de voir si l'auteur lui-même a publié ça sous la rubrique jeu de rôle. Il a dit c'est un jeu de rôle.
Alors, l'intitulé du jeu, c'est « Tout le monde est John » est un jeu de rôle d'humour et de compétition.
Très bien. Donc,
comprenez par là qu'il y a un gagnant et des perdants.
Si l'auteur, à partir du moment où l'auteur dit c'est un jeu de rôle, c'est un jeu de rôle. Par contre, ça peut ne pas correspondre à la vision de ce que vous, autour de cette table, vous attendez du jeu de rôle. Là, à ce moment-là, c'est à vous de présenter votre vision et de dire si ça colle. Moi, dans mon cas, j'ai présenté ma vision du jeu de rôle. Je te le dis, ça colle parfaitement. Jusqu'à un moment, et après je te donne la parole d'Arki, c'est promis, jusqu'au moment où tout le monde connaît les objectifs de tout le monde. À ce moment-là, ça devient une machine à saucisses. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'une machine à saucisses ? Darky, tu veux intervenir là ?
Oui, je veux pas définir ce qu'est une machine à saucisses.
Mais... Non, par contre, t'as ressenti ça aussi qu'au moment où l'objectif était arrivé.
Ouais, et d'ailleurs, je me suis dit, déjà, en fait, moi j'arrive à la même conclusion que toi, qui est l'objet un peu indéfini de ce jeu est un jeu de rôle pour moi, parce que si on a envie de le fixer, vu que là il est un peu broken. En le réparant, on se dirigerait plus facilement vers un jeu de rôle dans lequel on se dit bon, comment on peut faire coexister cette idée de multi-personnes et de points avec un truc complet. Enfin, ouais. Tu vois, si on veut compléter le jeu, je pense qu'on arrive vraiment à un jeu de rôle ouais. dans lequel, où, en plus, si tu joues un peu plus longtemps, une partie avec une enquête un peu plus sérieuse, mmh. etc., ça devient vachement primordial de cacher tes objectifs. Et donc, ça empêche de casser le jeu comme on l'a fait. Et j'imagine D'accord. complètement, toi, t'imagines, donc ton objectif, c'est je gagne et je perds le contrôle dès que je suis tout seul avec quelqu'un. Mm. Tu vas dans une enquête, tu dois interroger une personne qui va être toute seule et qui t'invite dans sa maison. Ouais. Il va falloir que tu fasses des pieds et des mains, parce que, ok, tu le veux, les points. Tu veux les points, donc tu vas devoir faire ça, mais tu vas devoir un peu maquiller, faire croire qu'il va y avoir plein d'autres événements pour que quand tu perdes le contrôle, tu laisses la narration aux autres, voilà. mais qu'à la fois, ils n'aient pas vraiment d'idée ouais. de... Donc je pense qu'en fait, si tu prends en compte l'idée de gagner des points et l'idée de mener une enquête, t'arrives à un truc qui se tient. Mmh. Je pense que c'est peut-être pas assez défini dans les
ça
règles.
Ça devient beaucoup plus stratégique et en fait tu sais pas le scoring à tout prix, parce qu'à ce moment-là tu vas choisir de scorer uniquement à des moments bien choisis, et pour arriver à ces moments bien choisis, bah, tu vas devoir développer toute la fiction autour. Je pense que,
et voilà, c'est là que le scoring se met au service de l'imagination de situations possibles et de création de contenu fictionnel, et donc on est bien dans un jeu de rôle effectivement.
D'ailleurs, juste avant que tu reprennes la parole, deux secondes, les règles, j'ai l'impression qu'ils disent, en fait, à la fin de la partie, particulièrement du scénario, ou alors si John est mort, etc., à la fin de la partie, on découvre qui a gagné en comptant les points un petit peu calmement. Et donc c'est plutôt, on a fait un bon scénario, voyons voir qui a réussi à subtilement perdre John à des moments un peu clés. Quoi.
Jérémy, tu voulais prendre la parole. Et après, j'essaierai d'expliquer ce que c'est que la machine à saucisses, parce que sinon... Mm-hmm.
Donc oui, dans ces cas-là, je suis d'accord. Si tu considères que à partir du moment où au départ, on est dans du jeu de rôle, là je te suis. C'est juste qu'en effet, nous, dans notre partie, à la fin, c'est complètement vrillé et ça finit pour moi en jeu de société.
Voilà.
Je me rends compte que j'ai merdé aussi au niveau du décompte des points finales. C'est pour ça qu'il y avait un petit truc.
C'est le nombre d'objectifs que tu as réussi dans le niveau fois le nombre du niveau. Donc, si toi, par exemple, tu as fait 3 niveaux 2 et je suis sûr que tu as compté 4 plus 4 plus 4, comme
ouais.
moi. Ouais, alors non, qu'en fait, ça aurait été 2 fois 3.
Okay. Ouais, ce qui ne change pas grand-chose. J'ai merdé là-dessus.
Et je me demande si...
On voit bien l'intention du jeu quand même. Enfin...
Pour éviter peut-être l'aspect aussi de trop repérer trop facilement les objectifs de chacun, donc en effet, du coup, en creusant le scénario, ce serait peut-être aussi d'essayer de juger à la fin quels sont les objectifs de chacun, et pour dire, si on a trouvé, par contre, tu perds des bonus parce que tu t'es fait trop griller.
Tellement
et donc, du coup, on
ne
serait pas aussi bourrin à dire, allez, de toute façon, il faut que je gagne du point, quoi que ce soit. Il faut que ce soit plus vicieux. Et là, en plus, le scénario aurait pu nous aider à être plus vicieux. On s'appuierait sur le scénario pour troubler un peu nos objectifs.
Tout à fait.
Je suis complètement d'accord avec ça. On fait un podcast garage, là, on est en train de faire un patch pour le jeu.
Ouais, c'est ça, on
est en train de patcher le jeu. Je pense qu'aussi, en fait, en fonction des scénarios, parce que chaque scénario n'est utilisable qu'une fois, enfin, et chaque personnage n'est utilisable qu'une fois. Là, je vous ai pris le scénario le plus... le caricatural, je dirais, du jeu, parce que c'est vous êtes dans la situation la plus des situations plus subtiles. J'ai vu des situations orientées plus murder, où les personnalités sont un peu plus fouillées, où la situation de départ est plus une énigme, il se trouve enfermé dans une pièce d'un musée, donc moins là. C'est vrai que la partie est volontairement caricaturale dès le début. Tu te retrouves avec une perruque
et moi ça me dérange pas, hein. moi que les raisons qui vont faire que les joueurs autour de la table vont imaginer des situations possibles, qu'elles soient caricaturales et que ça commence cash en immédiat res, comme là c'est le cas, tu te réveilles, t'es à poil, un cactus, tu viens d'avoir un accident, enfin, j'ai trouvé ça vraiment super bien, c'est-à-dire que tu commences direct, t'es direct dedans à te poser des questions, mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi ils sont là, pourquoi les flics me recherchent, qu'est-ce que j'ai dans le corps, qui je suis, etc. Ça me dérange pas. Pierre, tu prends la parole ou j'explique les machines associées?
En fait, je prends, non, mais vas-y, du coup.
Oui, parce que du coup, on a retardé la
t'explication de la machine associée. C'est juste rapidement pour expliquer quand même aux auditeurs que le principe d'une machine à saucisses, c'est que on a un système de jeu qui tourne tout seul d'un côté, donc un espèce de système de jeu de plateau. Comme pierre, papier, ciseaux, par exemple. Ça peut être effectivement ce que disait Jérémy tout à l'heure, les systèmes de mise cachés, où là, on a un système de jeu de société. Et finalement, la fiction devient accessoire. Ça ne devient qu'un prétexte pour... finalement, ce qui compte avant tout, c'est le jeu de société. Et que la fiction existe ou n'existe pas, ça ne change rien aux dynamiques du jeu de société. Celui qui va gagner, c'est celui qui mise le mieux, tu vois. Pas celui qui raconte. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, la machine à saucisses te prive de positionnement. C'est-à-dire que le principe du positionnement, c'est qu'à un moment donné, avec ton personnage, tu vas pouvoir faire des choix. Soit décider de partir vers A, soit décider de partir vers B. Dans la machine à saucisses, tu n'as pas le choix, parce que c'est le jeu, le système, la mécanique elle-même qui te dicte ce que tu dois faire. Or là, on sentait bien, à la fin, en fait, on n'avait pas le choix. On savait très bien qu'il ne fallait pas partir sur les problématiques de Darky, qu'il ne fallait pas partir sur les problématiques... On savait exactement ce qu'il fallait faire pour gagner. D'accord. Donc il n'y avait plus de choix, en fait. On était en mode automatique.
Au bout d'un moment, les choix se restreignent.
De toute façon, on sait tout de suite, hein, quand on rentre dans une machine à saucisses, on sent que on se fait méga chier et que le jeu tourne tout seul en fait. Enfin, il y a un côté, on cesse de réfléchir à des situations possibles et en fait, on réfléchit uniquement purement à des mécaniques et la fiction n'est finalement plus qu'une couleur qui se rajoute dessus, comme de la peinture sur une forme prédéfinie qui servira à rien.
Du coup, question, une machine à saucisses pour toi, c'est un jeu de rôle ou un jeu de société?
Pour moi, une machine à saucisses n'est ni l'un ni l'autre. C'est un jeu qui a un habillage roleplay, mais qui est en fait un jeu de société. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je saurais pas le dire. C'est très compliqué à définir.
C'est un jeu de société travesti. Plutôt, non ?
Ouais, peut-être. On pourrait dire un jeu de société travesti. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal. Ce serait un jeu de société déguisé en jeu de rôle. Voilà, c'est ça. Ouais, à peu près. Mais je rassure les auditeurs de la cellule, il y a très peu de machines à saucisses qui existent dans le monde. Il y a très peu de jeux de rôle qui tombent dans ce travers-là. La machine à saucisses, c'est un concept qui vient de Ron Edwards. En fait, il y a une discussion. Ron Edwards avait le don sur la forge d'inventer des mots à la con pour parler de concepts techniques. Hein. On connaît les trucs impossibles avant le petit-déj. Toutes ces conneries-là, c'est de lui, quoi. Donc, c'est une discussion sur forum, en fait, qu'on peut retrouver sur le forum de la Forge, où à un moment donné, il dit, ce type de jeu-là, ou dans lequel il y a un parallélisme total entre d'un côté les mécaniques, de l'autre la fiction, et on sent qu'il n'y a aucun point de contact entre la fiction et les mécaniques, c'est comme des machines à saucisses, quoi. Ça produit de la fiction, ça produit de la mécanique de façon automatique, et on a l'impression que la machine, elle marche tout seul, et qu'à chaque fois, elle produit une belle saucisse, j'essaye de comprendre la métaphore, mais moi-même, je la comprends pas très bien, très honnêtement, hein, Jérémy. Donc heureusement, fort heureusement, il y a peu de jeux de rôle qui font ça. Enfin, il y en a même aucun. Quasiment. La plupart proposent du positionnement. Parfois très faible, mais n'en proposent.
Et du coup, Julien, est-ce que c'est... Toi, vu ton expérience sur ce jeu-là en tant que jeu, est-ce que c'est ça dont tu nous prévenais en disant « Faut pas qu'on joue plus de 30 minutes, sinon après on s'emmerde ?» Parce que tu t'es rendu compte qu'au bout d'un moment, ça tournait à vide et
C'est un jeu sur lequel je m'interroge. Parce que pour moi, il est clairement aux limites du jeu de rôle et du jeu de société. On sait jamais. Enfin, pour moi, je vois Chromaric.
Pour moi, il y a un concept énorme. Il y a un concept génial dans ce jeu.
Pour moi, en fait, c'est un jeu qui me fait me poser des questions.
Parce que le concept est
génial. Parce que, justement, c'est un jeu très rapide déjà. C'est un jeu où c'est pas réutilisable, il y a pas de système d'expérience, il y a pas de système, tu gardes pas tes personnages d'une partie à l'autre. Donc il y a plein de choses qui pour moi tiennent du jeu de rôle. Il y a plein de choses qui finalement tiennent pas trop du jeu de rôle et ça oblige, je pense, c'est un jeu qui oblige tous les participants à se demander finalement pour moi qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle? Comment je le définis? Parce que tu es obligé de prendre position sur ce jeu-là.
D'accord.
Alors c'est vrai que moi, je te dis, j'ai un peu souvent le cul entre deux chaises. Alors après, je te dis...
Il y a plein de jeux comme ça.
Soit je le fais jouer... Alors,
il y a plein de jeux comme ça.
Choses. Là, c'était un peu expérimental ce soir. Je vous l'ai fait jouer plus comme un jeu de société. Alors que je l'ai fait aussi jouer plus comme un jeu de rôle. Et je me dis à chaque fois... Alors, il a des défauts dans les deux cases, en fait, dans les deux systèmes. En tant que jeu de rôle, il n'est pas très abouti. Il y a des règles très simples qui tiennent sur deux pages. Donc, ça tient beaucoup sur le maître de jeu en tant qu'illusionniste, c'est-à-dire de faire tenir la narration, parce que finalement, le système de jeu est très simple, donc tu peux vite t'embêter. Parce que finalement, il n'y a qu'un seul joueur qui maîtrise John à chaque fois. Donc, sur des périodes de session un peu longues, ça peut être de... Oui, ben, on s'emmerde autour de la table, on le regarde faire. Et comme on ne marque pas d'objectif, et ben, on écoute ce qu'il nous raconte pendant 5 minutes, ouais, voire 10 minutes. Okay, ouais. Donc, pour les autres, ça peut être... Ben, oui, on est spectateur, mais il y a des joueurs qui n'aiment pas être spectateurs du tout au jeu de rôle. Donc, c'est ça le travers. Là, je voulais accélérer façon jeu de société, presque Jungle Speed, parce que je vous ai mis la pression dès le départ.
Alors,
donc là, je voulais voir si c'était tenable en temps limité. Donc, c'est clair que vous avez fait du scénario, vous avez fait quoi ? Vous avez fait...
du n'importe quoi.
Non, vous avez fait une demi-page du scénario de trois pages.
Ouais, c'est ça. Pierre, tu veux intervenir.
Ouais, parce qu'en fait, du coup, si je te posais la question, parce que j'avais une idée, vous allez me dire ce que vous en pensez. Si à ce moment-là, on décide d'arrêter le jeu, la partie, au moment où tout le monde a compris quels étaient les objectifs des autres, est-ce que ça ne résoudrait pas le problème ? Parce qu'en fait, on est tous d'accord pour dire c'est du jeu de rôle jusqu'au moment où on commence à comprendre dans quelle situation les autres marquent des points. Et c'est à ce moment-là où l'action de chaque joueur se résume à essayer de se retrouver dans cette situation-là où il va marquer des points.
Oui, c'est possible.
Et du coup, à ce moment-là, on resterait dans un cadre qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus peut-être encore dans le jeu de rôle, dans le sens où en fait, on va continuer à faire effectuer des actions à John de manière à découvrir. On ne sait pas exactement comment les autres vont réagir. On va peut-être miser beaucoup, pas beaucoup.
C'est déjà un peu le cas. Hein, ouais. Le jeu s'arrête quasiment déjà quand on a tous découvert.
Alors là-dessus, c'est pour ça que je trouve que le flou est intéressant.
Au final, Jérémy a commencé à marquer énormément de points. Il nous a laissé dépenser nos points quand au début on voulait tous prendre le contrôle sur John pour marquer nos premiers points, nos premiers objectifs. Lui, il a laissé couler. Et une fois qu'il a compris à peu près comment s'établissaient les situations, à ce moment-là, il a déroulé son jeu, il a misé une fois.
C'est pas un argument,
fois.
Ça, parce qu'on n'avait pas non plus découvert ses
objectifs.
Vous
aviez beaucoup de peine à trouver son objectif.
Le jeu s'est terminé quand on a découvert les objectifs
de
tout le monde.
Mais du coup, on ne faisait pas forcément très attention parce qu'on avait à l'idée d'abord de marquer nos points, nous.
Ouais. Alors, du coup, ça, c'est un autre argument que j'avais, c'est que. Malheureusement, ça risque de devenir trop un jeu où on fait tout le temps pause. J'ai une suggestion. Peut-être que ton truc, c'est de faire tu vois. Et ça va casser un peu la mécanique.
Avant même de dire ce que le jeu pourrait être en fonction de tel truc et tel patch, je pense vraiment qu'il faut partir sur des trucs concrets de ce qui s'est passé aussi ce soir. Moi, il y a un truc qui me dérange beaucoup dans cette conversation d'une manière générale, c'est qu'on dit c'est pas un jeu de rôle, c'est un jeu de société. Rappelons-nous que le jeu de rôle est un jeu de société. Non, mais c'est essentiel. Parce qu'en fait, dans un jeu de société ou dans un jeu de rôle, dans les deux cas, on est dans une situation où on s'interroge sur des situations possibles. Aux échecs, vous voyez deux joueurs d'échecs l'un en face de l'autre, ils sont bel et bien en train de s'interroger sur des situations possibles. La seule différence, c'est la nature des situations possibles qu'on imagine. Dans le jeu d'échecs, elles sont extrêmement codées, très mécaniques, très définies à l'avance. Alors que dans le jeu de rôle, le curseur est beaucoup plus placé sur les possibilités du langage, dans un univers donné, les règles sont... Voilà. Donc on est dans l'ordre du contenu fictionnel, de la fiction, avec tout ce que ça implique. Donc déjà, pas d'opposition entre les deux. C'est pas parce que ce jeu ressemble à un jeu de société qu'il n'est pas un jeu de rôle. Ce n'est pas parce qu'il ressemble à un jeu de rôle qu'il est un jeu de société.
On entend jeu de plateau quand on dit.
Alors, moi, j'aime pas trop la distinction entre jeu de plateau et jeu de rôle. Hein. Moi, je l'aime pas du tout cette distinction non plus. Historiquement, je la trouve bancale. Je sais pas d'où elle vient. Board game. Alors, Jérémy, c'est peut-être un peu toi le spécialiste de ces questions, je pense.
C'est assez compliqué. Dès qu'on parle de classification, de toute façon, on se casse forcément la figure. Notre cerveau est fait pour avoir des multiples connexions. Et donc, du coup, dis jaune, on peut penser à un lion, on peut penser à un soleil. Donc déjà, on parle de différentes choses.
Évidemment.
Dans le monde du jeu, oui, je suis d'accord, je te rejoins. Le jeu de rôle est un jeu de société. Parce que de toute façon, la société, on était plusieurs autour de la table. Ouais. C'est bon, nickel.
Le board game.
Le board game, donc jeu de plateau, il faut un plateau. Il n'y a pas de plateau, donc on n'a pas de plateau. Jeu de cartes, il faut des cartes.
Il n'y a pas de cartes.
Voilà. Jeu de dés, c'est un jeu de dés, ça va. Jeu de mise, oui. Oui, ok, c'est bon. Ça rentre. En fait, suivant la mécanique, suivant les choses, on pourrait le rentrer. Alors si en effet comme un jeu de rôle, on peut dire ok,
il y a des rôles.
Dire, okay,
ouais, il y a des rôles.
Mais le présenter simplement comme
tu sais qu'il y a une distinction qui avait été tentée comme ça entre le jeu de rôle et le jeu à rôle. C'est-à-dire, ah oui, en fait, le, par exemple, Loup-garou de Tiercelieu, ce serait un jeu à rôle.
Ouais, pour moi, ce serait un jeu d'équipe.
Ouais, parce que le terme jeu de société, moi, si je ne m'abuse, il remonte au 19e siècle, fin du 19e siècle. Et c'est en gros, quand on est dans la bonne société, quand on s'emmerde en soirée, on propose. Des livres de jeux de société du fin 19e qui, pour nous, ne sont pas du tout des jeux de société. C'est des, typiquement, il y a. Alors, c'est pas un meneur de jeu dans les jeux de société de la fin du 19e, tu sais que c'est qu'il y a une sorte d'arbitre qui propose un jeu. Ouais. Alors, le jeu, c'est comment faire tenir une pièce de monnaie en équilibre sur une allumette. Mmh. Et en fait, c'est plutôt une énigme qu'on pose à l'assemblée. Mmh. Et ça s'appelle jeu de société parce qu'on est en bonne société. D'accord. Et donc, c'est vrai que c'est le mot jeu de société au 19e siècle, c'est quelque chose de tellement large qui recouvre à peu près toutes les pratiques. Après, c'est vrai que ça va se diversifier et se complexifier.
Jérémy, tu voulais ajouter quelque chose?
Ouais, juste une petite nuance. Donc, je travaille dans une ludothèque. Tous ces jeux-là que moi, des fois, je présente comme jeux de société, en effet, c'est aussi une erreur. Dans ma classification de mon travail, on appelle ça des jeux à règles.
D'accord.
Ouais, tu parles de quel jeu?
Les jeux à règles.
Les jeux à règles. Ah oui, alors... Du coup, il va falloir que je vous parle. Donc, dans une ludothèque, il peut y avoir plusieurs classifications. Moi, j'utilise la classification ESAR, E-S-A-R. E pour exercice, S pour symbolique, A pour assemblage, R pour règle. Les jeux d'exercice, et généralement, moi, je dis que c'est les jeux pour les enfants. Je caricature, hein, parce qu'on pourrait dire, maintenant, les jeux d'exercice pour adultes, quoi que ce soit. Mais je considère que c'est des jeux qui sont très colorés, qui sont là pour jouer sur la perception, sur la motricité. Donc, en fait, c'est l'enfant qui découvre un peu l'environnement. Je lui dis, mais attends, je suis en train de naître. Qu'est-ce que c'est que ce monde autour de moi? Il faut que je comprenne. Donc, les jeux d'exercice, ça sert à ça. Ensuite, on passe aux jeux symboliques. Une fois que l'enfant commence à bien comprendre son environnement, qu'il commence à bien utiliser son corps, sa motricité, du coup, il va pouvoir bouger et il va besoin aussi de nommer les choses et puis dire à papa, maman les choses, et le montrer et parler. Donc là, on commence à être un peu dans du jeu symbolique. Le jeu de rôle aussi, on peut être là-dessus, parce que quand on voit les enfants jouer, alors c'est pas du jeu, mais enfin, c'est pas du jeu à règles, mais c'est du jeu où ils ont quand même un rôle.
Les gendarmes et les voleurs, tu penses?
Et voilà, des choses comme ça, les papas, maman, la marchande, le bricoleur, ainsi de suite. Les jeux d'assemblage, je considère que là, on commence déjà à titiller les règles, mais les règles physiques, c'est-à-dire que par exemple, les Lego, les puzzles, c'est une représentation spatiale.
Il n'y a pas de règles.
La construction de la tour, voilà. Et les jeux à règles, c'est là que je me fais avoir, c'est-à-dire que du coup, c'est des règles sociales. Il faut qu'on se mette d'accord sur un ensemble.
Un contrat social, en fait.
Exactement, avec tout le système de règles. Et donc, si on est tous d'accord avec ces règles-là, on peut faire ce jeu.
Ouais. Il y a les jouets de jeu. Attends, juste, Pierre, on ne t'entend pas. Qu'est-ce que tu disais? Que c'était la deuxième partie du podcast sur le jeu de plateau que
tu
n'avais pas fait.
J'avais déjà fait une première partie sur le jeu de plateau. C'était la classification, ça rentrait dans la deuxième partie que j'ai jamais fait, en fait.
D'accord, ok. Ouais. Okay.
Ouais, c'est très intéressant comme classification. Ouais.
Je connaissais
pas. Ça rompt un peu avec Kaiwa et.
Tant de choses qui rompent avec Kaiwa. Il y a tant de choses qui rompent.
Qui est plus.
Alors. Rapidement sur Tout le monde est John. Du coup, nous, on a établi une règle notamment avec Fabien, avec qui on parle énormément de ces questions de classification, qui est on estime que à partir du moment où l'auteur l'a défini comme faisant partie de l'ensemble jeu de rôle, c'est lui qui dit. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter ce qu'on appelle le cas « ceci n'est pas du jeu de rôle ». La fameuse phrase « ceci n'est pas du jeu de rôle ». Parce qu'en général, c'est un outil de pouvoir ou de domination qui sert à certaines personnes pour dire « ceci est de la merde, en fait ». C'est-à-dire « ouais, mais pour moi, c'est pas du jeu de rôle ». Sous-entendu « ouais, mais ça vaut pas le truc ». Tu vois, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je te vois, Jérémy, je te vois dubitatif là-dessus. Tu vois, c'est comme les gens qui disent « non, mais ça, c'est pas de la musique ». Non, mais ça, c'est pas du cinéma.
Oui. Le jugement de valeur, en fait.
On définit jamais quoi que ce soit par du négatif.
Voilà, c'est ça.
Donc, c'est pas ça le problème. C'est plus l'appellation de dire « si l'auteur a appelé ça du jeu de rôle, est-ce que c'est du jeu de rôle ?» Je suis en train de me poser la question, mais peut-être que je me trompe. Il y a un jeu qui est sorti récemment qui s'appelle Time Story, qui est un jeu très sympa.
The Space Cowboy, c'est ça ?
The Space Cowboy. Et je me demande s'ils l'ont pas présenté comme du jeu de rôle ou quelque chose comme ça.
Ouais, bah...
Et au bout du compte, je me dis, mais ah oui, mais en fait, j'ai adoré jouer à ce jeu-là, mais j'ai pas eu l'impression de faire du jeu de rôle.
D'accord.
Pareil, je me méfie beaucoup de tout ce qui est écrit sur un jeu pour définir un jeu. Il peut avoir des erreurs.
D'accord. Ouais, après, quand c'est une, enfin, tu vois, quand c'est une erreur, c'est une erreur, quoi. C'est juste que la personne ne savait pas dans quel média elle s'inscrivait. J'ai tendance aussi à me méfier de ça. Mais enfin, bon, il y a un moment donné, il faut aussi faire confiance aux auteurs. Voilà. Tant pis, ils l'ont inscrit dans.
Après, tu sais qu'on a le problème en français du terme jeu de rôle, parce
ouais,
que,
voilà,
qui est assez polysémique. Parce que en anglais, le jeu de rôle, c'est clairement le RPG, et il n'y a pas de confusion possible. Enfin, alors qu'en français, c'est vrai que le jeu de rôle. Avec, il y a le jeu de rôle social, il y a tout ça qui...
Nous, si tu veux, ouais. Julien, notre idée avec Fabien, c'est juste de dire, il faut arrêter de dire aux gens, ceci n'est pas du jeu de rôle, parce que du coup, ça leur ôte la créativité. C'est-à-dire, il y a un moment donné, quelqu'un arrive avec un jeu qui se joue tout seul, comme Gaël Sacré qui fait Happy sur les ateliers imaginaires, et on lui dit, non, mais ça, c'est pas du jeu de rôle, parce que ça se joue tout seul. Résultat, on l'empêche de créer. Tu vois, donc l'idée, en fait, c'est d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse créer. Après, libre à chacun ensuite d'amener sa propre définition, comme moi je l'ai fait dans le Maelstrom, et de dire, selon moi, ce n'est pas ce que j'entends par jeu de rôle, tu vois. De la même manière que quand j'emploie le terme machine à saucisse, généralement, il a cette vocation de dire, pour moi, ceci n'est pas du jeu de rôle. Pour Ron Edwards, ceci n'était pas du jeu de rôle, tu vois, quand on l'emploie bien. Mais voilà, et nous, par exemple, sur la cellule, on nous a souvent accusé par rapport à ce terme machine à saucisse de faire du ceci n'est pas du jeu de rôle, justement.
Ouais, c'est ça,
en disant, quand on dit d'un jeu, ouais, c'est une machine à saucisse,
ouais,
sous-entendu,
ceci
n'est
pas
du jeu de rôle.
C'est pas un vrai jeu.
Nous, c'est pas ce qu'on dit. On essaye de définir la machine à saucisse comme un ensemble technique concret, tu vois, au moment où le jeu de rôle cesse d'être vraiment du. Où le rôle et la fiction cessent d'être importantes et où seules les mécaniques comptent, et où finalement, celui qui veut faire du jeu de rôle et de la fiction et avoir un positionnement par rapport à la fiction est déçu parce que le jeu échoue à lui donner ce plaisir-là. C'est très compliqué. Hein. Là, on est vraiment dans des débats de fond de tiroir théoriques.
Ouais, non, mais c'est l'occasion de ce jeu, en fait. Hein. C'est moi qui l'ai suscité en vous proposant ce jeu-là. C'était volontaire. Hein. Et la question était réellement.
Peut-être revenir sur le jeu, justement. Tout le monde est jeune.
Moi, je voulais juste une petite caution Wikipédia. Time Stories, sur sa page officielle, esquive la question et se définit pas comme un jeu de rôle. Time Stories est un système de jeu qui se combine avec des scénarios. Faisant ce que vous voulez. Mais moi, je ne peux pas chasser, quoi.
C'est intéressant. Voilà, mais en tout cas, la page ne l'inscrit pas dans l'histoire du média jeu de rôle. C'est important, hein.
Non, mais oui, c'est bien de le préciser.
Quand Duchamp pose son urinoir dans un musée en l'inscrivant dans l'histoire des œuvres d'art, ça a un message fort et un propos, etc. Donc voilà. Juste, on revient au jeu, on revient à.
Ouais.
Moi, je trouve que le concept
juste
est excellent.
Le truc, c'est un jeu qui est défini. Alors, je regardais puisque tu m'interrogeais sur la définition, donc il y avait l'humour, s'en est rendu compte. Il y a l'idée aussi de compétition qui est assez intéressante parce que pour certains joueurs de jeux de rôle, il est impossible qu'un jeu de rôle soit compétitif et qu'une partie soit compétitive. Mmh. Et pour eux, ils le posent dans la définition. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui me...
Attention à ton micro.
Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est important. Parce que, comme on a vu... Enfin...
Et c'est par essence coopératif, le jeu de rôle, pour eux.
Ouais. Il y a beaucoup de gens pour qui le jeu de rôle va être par essence coopératif et pour qui... Alors, le jeu de société ou board game, jeu de cartes, serait par essence compétitif. Et très souvent, on a dans, tu sais, ces gens qui définissent le jeu de rôle, tu sais, dans leur jeu, en disant dans la première partie, le jeu de rôle est très différent des autres jeux parce que il est compétitif, il est coopératif. Et c'est vrai que pour moi, c'est poser cette définition là en premier, c'est, je pense, se tromper.
Ouais.
Après, je pense qu'il y a d'autres avis aussi et que.
Après, voilà,
on peut faire des parties pour moi de jeux de rôle qui sont compétitives où il y en a.
Moi, j'en suis vraiment persuadé. Je peux même dire que dans des parties il peut y avoir des moments de compétition. Sans que ça nuise au jeu.
Voilà. C'est-à-dire, faut pas que ce soit non plus un abus d'un joueur qui va décider de tout faire pour lui ou de.
Il y a des gens qui jouent à Cthulhu de façon compétitive en disant le but de Cthulhu c'est de mourir le dernier dans un scénario. Puis d'ailleurs ça va dépendre pas uniquement des règles d'ailleurs, ça peut dépendre du système. La différence qu'on fait entre les règles et le système, c'est que les règles c'est ce qui est écrit dans la base, le système c'est ce qu'on applique ce soir. Par exemple, je peux jouer à Cthulhu by the book en suivant les règles, en disant allez on va faire une ambiance, un truc, ou alors dire allez on rajoute rajoute une petite règle ce soir. On va jouer avec Toulouse, mais je rajoute juste une petite règle pour notre système là autour de la table, notre contrat social du soir. Le dernier qui meurt, il a gagné. Mmh. Et tu vois, et voilà, ça peut être, ça peut être quelque chose. Donc moi non, j'ai pas envie de faire cette distinction. Enfin, en tout cas,
non, mais je voulais revenir sur ce. Non, je voulais revenir sur un point parce que c'est vrai que c'est un point souvent d'achoppement. Des gens vont présenter le jeu de rôle en disant oui, mais le jeu de rôle c'est quand même un jeu qui est coopératif et qui est pas compétitif. Et ils ont l'air de le poser, tu sais, un peu. Ça a l'air, je pense, d'être évident pour eux. Je pense que c'est loin d'être évident pour moi.
Je crois vraiment qu'aujourd'hui, les débats, notamment sur la forge et notamment les débats autour de D&D, notamment le 3.5 hein, sur le système Tour d'Ivoire et toutes ces discussions, ont fait que globalement, les joueurs de jeux de rôle ont maintenant compris que il y a de la compétition dans le jeu de rôle et c'est pas grave, tu vois. Mmh. Et c'est pas parce que c'est la compétition en soi, le conflit, sale, l'opposition, ce n'est pas mal. Ce qui est mal, c'est la façon dont l'opposition et le conflit et la concurrence sont à l'œuvre dans notre société contemporaine. Ça, c'est peut-être mal. Mais par contre, dans le jeu de rôle, c'est pas forcément mauvais. Je voudrais revenir au jeu. Parce que tu vois bien sur quelle porte tu nous amènes. moi, en fait, ce qui me plaît beaucoup dans ce jeu, c'est son concept. Le fait que déjà on prenne à contre-pied ce cliché du jeu de rôle qui est que chaque joueur devrait jouer un personnage donné et qu'on a là ici un joueur qui joue. Enfin, plusieurs joueurs qui jouent un seul et même personnage. Contrairement au meneur de jeu, qui lui est un joueur qui joue une infinité de personnages. Et donc, il y a une espèce d'opposition comme ça que je trouve intéressante, un espèce de chiasme de système, en fait, que je trouve très intéressant. Donc ça, déjà, ça mérite d'être souligné, c'est une originalité du jeu. Le fait également que, même si nous sommes des murmures dans la tête d'un seul et même personnage, nous sommes quand même en position de plaider pour un personnage. Nous ne plaidons pas pour John, c'est vrai, mais moi, par exemple, je plaidais pour un personnage qui s'appelle YMCA.
On a une personnalité.
On a une personnalité. Toi, comment il s'appelait ton perso déjà, Darky?
Bad Boys.
Bad Boys, voilà. Et donc, en fait, je plaide pour YMCA. Moi, je plaide pour l'homosexualité de Jack. De John.
Moi, je tabassais, là.
Toi, tu plaides pour quoi? L'agressivité
Le côté flic-ripou.
Le côté flic-ripou, ouais.
Voilà. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que c'est comme dans Fight Club. Dans Fight Club, le personnage a beaucoup de personnalités différentes.
T'es sérieux ou pas là?
Tu viens
de spoiler Fight Club.
Sans déconner, enfin. Ok, d'accord, ok. Bon, si t'as pas vu Fight Club.
T'as raté ta vie.
Non, t'as raté ta vie un peu, non?
Si tu viens de te le faire spoiler, en tout cas, oui, t'as raté ta vie.
Bon, on a spoilé Identity, alors, si tu veux, si tu l'entends.
Oui, c'est
pas,
vrai.
On n'a pas arrêté de spoiler. Donc,
ok, vas-y, pardon.
Mais voilà, dans Fight Club, même si c'est le même personnage à qui il arrive des choses, on sent bien qu'il y a quand même des psychologies, en fait, et que s'il y avait des joueurs à jouer à ce jeu, il y en a un qui jouerait Tyler, il y en a un qui jouerait Edward.
Il n'a pas de nom, le narrateur. Il s'appelle le narrateur.
Le narrateur, etc. Je me demande s'il n'y a pas une influence de Fight Club sur ce jeu. Fight Club est sorti à quelle date?
99, je crois.
Là, on est en 2002.
Donc, c'est possible.
Donc, c'est possible aussi.
Pour voir. Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on plaide pour un personnage. Ça, c'est très important. Parce que ça évite la posture d'auteur. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation dans laquelle on joue un personnage. Même s'il a le... On a tous le même corps, on a tous le même maillot, mais on n'a pas tous la même passion. C'est bizarre. on a tous le même corps, mais on n'a pas tous les mêmes objectifs. Donc quand même, on est dans une position, tu vois, où on imagine des situations possibles pour atteindre un objectif donné. Et donc, ça, c'est vraiment propre au jeu de rôle, par exemple. Hein, parce que ça nous donne un positionnement bien particulier. Après, la manière dont on l'a joué ce soir et la manière dont le jeu est écrit, ça a l'air d'être un mauvais jeu de rôle, au sens où il échoue à bien faire soit c'est parce que si vous voulez pour moi un mauvais jeu, alors je rentre vraiment dans un jugement subjectif, c'est un jeu qui mène deux lièvres à la fois et dans lesquels deux joueurs peuvent être à jouer à deux choses différentes dans le même au même endroit. Typiquement pour moi c'est ce qu'on appelle un jeu parfois dysfonctionnel, c'est-à-dire un jeu dans lequel à un moment donné un joueur va être dans une démarche créative donnée, par exemple ludiste, et l'autre va être en mode simulationniste à essayer de jouer le mieux possible le poumon meurtri de Jack, enfin l'homosexualité refoulée de Jack, vous voyez. Et là je pense que le jeu dysfonctionne. Après j'aurais pas dû dire mauvais jeu, je suis désolé, j'oublie,
c'est
un jeu dysfonctionnel
en fait.
Voilà c'est ça. Parce que c'est pas parce qu'un jeu est dysfonctionnel qu'il est forcément mauvais en fait.
Ouais, parce que je relisais les règles, elles sont rapides, hein, elles sont de pages. C'est vrai qu'à aucun moment l'auteur, alors dans deux pages c'est court, À aucun moment, l'auteur ne tranche, en fait.
Mais le contrat social n'est pas clair.
Voilà.
Et c'est ce qui fait que, d'ailleurs, toi, en tant que
moi-même,
personne qui amène
chaises,
le jeu, voilà. Tu es obligé d'imposer un contrat social.
Voilà.
C'est ce que tu as commencé à faire. Et donc là, on est en train de dire, Julien ne nous a pas fait tester, comment dire, il nous a pas fait tester Tout le monde est John. Mais si. C'est juste que, comme le jeu ne dit pas son contrat social, il a fait le choix d'un contrat social. Il n'avait pas le choix puisque le jeu ne le fait pas lui-même. Ça me fait un peu penser à Sombre, par exemple, de Johan Scipion, qui est un jeu un peu pareil où t'as un système de résolution, mais le jeu ne dit pas son contrat social. On l'a déjà testé ici, donc si les auditeurs veulent s'y référer, ils peuvent le faire. Mais c'est des jeux qui ne disent pas vraiment leur contrat social. Il faut avoir rencontré l'auteur pour savoir, pour connaître presque le contrat social. Alors, je sais que Johan, aujourd'hui, rajoute pas mal de patchs sur son jeu et que depuis, il l'a bien amélioré, qu'il y a plein de choses qu'il a dit, qu'il n'avait pas dit avant, enfin que le jeu est en perpétuelle évolution. Donc voilà, est-ce qu'il le travaille encore ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Il fait encore plein de progrès sur ce jeu, donc... Mais voilà, au moment où nous on l'avait testé, on était emmerdé comme ça. Et la personne qui venait de nous le faire tester était en train de s'excuser. C'était Globo, il nous disait mais non, mais je suis désolé, je vous ai pas vraiment joué à son.
Et finalement, je me suis retrouvé dans la même posture de m'excuser.
Mais oui. Mais c'est pas de ta faute.
Non,
parce que le jeu te disait.
En plus,
le jeu te disait pas quoi faire.
On s'est bien marré en plus. Donc
c'est mais en plus, je l'ai fait.
Extrêmement marré au début. Voilà. Il y a une descente où on s'est rendu compte merde, putain, c'est pas si exceptionnel. Parce qu'au début, on l'y a cru quand même. Les 20 premières secondes, c'était n'importe quoi. On était mort de rire parce que tu faisais n'importe quoi, Romaric, avec ton John dans ton.
Mort de rire. Non, mais c'est.
Ah, il était perdu, oui.
Moi, ça m'a trop fait rigoler. Enfin, le début du jeu, en fait. Mais tu vois, c'est comme si Dracula. Je retrouve la même sensation que dans Si Dracula, le jeu que nous avait fait tester Adrien, dont on parlait en préparation du podcast. C'est un jeu, tu t'amuses les 20 premières minutes, et puis assez rapidement, tu fais c'est une machine. Plus importante.
Et comme je te le disais, la dernière fois que j'avais fait tester ce jeu avec ce scénario-là, j'étais parti d'une prémisse, j'avais juste dit que c'était un jeu un peu expérimental, et on est parti dans une vraie partie. Mais finalement, au bout d'un moment, les joueurs ont oublié qu'ils devaient tenir des objectifs. Et que c'était ça qui les départageait à la fin. Ce qui fait que ça donnait une bonne... Enfin, j'en ai pas un mauvais souvenir de cette partie-là. Ça a donné une bonne partie de jeu de rôle. Mais finalement, j'aurais pu le faire sans règles du tout. Ouais. Et c'était pas la peine de me référer aux deux pages de règles, tu vois. Donc, on avait le scénario. Ils ont fait le scénario. Ils ont essayé de comprendre des choses. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en pleine partie... Est-ce qu'on est en train de jouer à Tout le monde est John ou est-ce que je suis en train de faire une partie de jeu de rôle
élément de contrat social pour poser le jeu, en fait. C'est ça qui manque à ce jeu et donc c'est un jeu qui merdouille. Et tu y es pour rien. Hein.
Il est fourni sans scénario de base.
Ah ouais, d'accord.
Donc en plus de base, tu sais pas vraiment quel est le scénario entre guillemets type. Donc, tu as plein de scénarios pour Tout le monde est jeune fournis sur le net qui sont tous, en plus, très, très différents. Donc, je pense que même au niveau de la communauté, les gens qui l'ont fait jouer, les gens qui l'ont reçu, l'ont reçu de très différemment, en fait.
Et puis, on sait, comme dans le jeu de rôle classique, le scénario est extrêmement important. D'ailleurs, c'est un truc qu'on nous avait reproché sur Sombre aussi, c'est-à-dire de critiquer le jeu sans jouer à un scénario de Sombre, tu vois. D'accord. Et justement, c'est hyper important parce qu'un scénario peut fixer un contrat social. Ouais. Tout ça est un peu tard pour développer tout ça. Et puis, je pense que ce n'est pas l'objet d'un one-shot, tu vois. Là, on est vraiment en train de partir de discussions théoriques. Et moi, je suis désolé, je m'excuse auprès des auditeurs du nombre de raccourcis audio que j'ai fait. J'ai dû faire plein d'approximations. Je pense que ce podcast va me faire recevoir plein de mails d'insultes.
Non, j'espère pas.
Dès qu'on parle de théorie et tout, c'est terrible que les gens. Je ne pense pas à mal. Je suis désolé d'avoir fait des raccourcis de langage. Darky, tu voulais.
Je viens de chercher. Ouais, j'ai fouillé un petit peu dans les règles en cherchant effectivement une prise de position. C'est assez troublant de ne pas en voir. Il y a deux lignes quand même dans lesquelles il dit si vous comptez sérieusement jouer la compétition, vous allez probablement devoir garder secret vos objectifs. Et ça me laisse à penser que la partie compète, elle est facultative, et donc que la partie scénario est primordiale.
Ça, tu l'as trouvé dans les
règles originelles.
Autrement dit,
juste après les obsessions.
Ah oui, c'est vrai.
If you're going to seriously compete with the other places, you probably should keep your shit.
C'est terrible. Mais ça, on l'a joué secrète, les obsessions, non ?
Non, mais en fait, ce que je dis, c'est que le fait qu'il mentionne. Ouais, si vous voulez jouer ça, pensez à ça. Ça fait un peu. Bon, ça, c'est facultatif, du coup. Mm-hmm. Et du coup, ça veut aussi dire.
C'est-à-dire que le jeu de rôle, lui, n'est pas facultatif. Ce serait qu'une variante. Finalement, l'aspect qu'on a joué là ne serait qu'une.
D'accord,
cacher les objectifs serait une variante du jeu et non pas le jeu originel.
C'est ce que j'ai l'impression que ça pourrait laisser penser.
Ouais, c'est vrai que le, c'est vrai que cette petite phrase que j'avais pas pas tilté et permet de aussi de même à l'intérieur, tu vois, réorienter encore le, les choses.
Mais bon, ouais. On est sur deux phrases sur un jeu comme ça.
Ouais, ouais, non, mais c'est clair. Sur, mais oui, mais il fait deux pages en tout, donc c'est vrai que tu peux.
Mais je discutais avec Dorian le de. On organise sur Rennes, enfin, 3-8 Combo en fait, organise sur Rennes des soirées game designer dans des bars à Rennes. Mm-hmm. Et avec Dorian, on avait une discussion autour des jeux. Et on disait, il y a des jeux qui sont objectivement mauvais ou pas intéressants, mais qui font des très bons objets d'études. C'est-à-dire, en fait, il y a
tu
des jeux...
Non, mauvais au sens dysfonctionnel, c'est
voilà,
ça,
hein. Par exemple, il citait dans le, jeu, dans le milieu du jeu vidéo Goat Simulator, qui est un jeu de simulation de chèvres qui a été, en plus, qui a été publié par ses auteurs exprès buggé parce qu'il avait été fait pendant une jam et du coup, ils l'ont publié buggé, etc. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que, ok, c'est peut-être pas un bon jeu, après, on a chacun son avis sur le jeu, tu vois, mais par contre, on peut pas lui nier qu'il soit un excellent objet d'étude et d'analyse et un excellent argument dans les conversations, etc. Et je trouve que c'est génial parce que par exemple, Tout le monde est John, on peut dire que c'est un mauvais jeu. C'est un peu comme Sombre de Johan Sipion ou Kourou. On peut dire que c'est des mauvais jeux, peut-être. Enfin, moi, en tout cas, je le dis. Je dis que c'est des jeux dysfonctionnels et je les aime pas. Par contre, on peut pas nier que ce soit des bons objets d'étude et que c'est des jeux qui sont importants dans le milieu du jeu de rôle, ne serait-ce que par ce qu'ils apportent en termes de théorie, ce qu'on peut en dire, etc. Ils sont des marqueurs, en fait, voilà, d'une certaine manière de faire du jeu de rôle.
Bah, c'est clair que si je voulais présenter, c'est parce que c'est un jeu auquel je tiens. Et que je pense que Tout le monde est John, c'est un jeu. Alors, je dis pas. Là encore, je sais pas s'il est dysfonctionnel. Je sais pas du tout en fait. Je sais pas. Mais je pense que c'est un jeu qui est important. C'est-à-dire voilà, c'est que ça. Il faut qu'il. Enfin, il faut qu'il existe. C'est bien qu'il existe dans le jeu de rôle parce qu'à partir de ce jeu-là, on peut se poser plein de questions.
C'est ça.
Et même sur soi-même, sa propre pratique du jeu en fait.
C'est ça. Et c'est pour ça que je te dis, voilà, le dire le jeu est mauvais, c'est totalement subjectif. Mmh. Par contre, ce qui est objectif, c'est de dire ça, ça fait un bon objet d'étude. Mmh. Et donc ça, on ne peut pas le nier. Et donc, du coup, ça en fait des chefs-d'œuvre. Ça en fait des œuvres qui font avancer
le
média.
Ah oui, non, mais c'est clair,
qui...
c'est clair.
Pour moi, tout le monde est John. Je pense que c'est un jeu qui est, certains diraient expérimental, je ne sais pas comment le dire. C'est un jeu qui a une dimension très intéressante d'un point de vue théorique et conceptuel, et il est intéressant à analyser, il est intéressant d'y avoir joué pour en parler et tout ça. Alors après, à titre personnel, voilà, je juge mauvais. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas sûr que si l'auteur était là, il ne me dirait pas « Non mais t'as raison, moi-même, je ne trouve pas terrible non plus mon jeu.
Ouais, » ouais,
par contre, voilà, j'ai voulu faire un ovni, un concept, un truc, et voilà, ça se trouve, il serait d'accord avec moi.
C'est ce que j'allais dire. Ça a l'air d'être carrément le délire de l'auteur. Je suis sur sa page, là, il a créé plusieurs jeux, dont un qui s'appelle The Framework, qui considère comme... Il met dans la catégorie avant-garde, et c'est une de ses tentatives. Il parle d'un métasystème pour partager l'autorité du jeu autour de la table.
Mais voilà.
Je pense qu'il est en alignement total avec toi.
Il y en a d'autres.
Plus des prototypes, des concepts, des expériences
que
Julien Dupré. Qui peut labeller jeu à la fin. Quoi.
Julien Dupré aussi, qu'on avait playtesté le jeu de Julien Dupré qui s'appelle Burps, qui est une caricature de GURPS, et dans lequel, en fait, c'est un jeu où tu joues des rôlistes qui doivent se trouver une pizza.
D'accord.
Y a un scénario débile. Et en fait, c'est pas un jeu. C'est un pamphlet. En fait, la base de jeu, elle n'est pas jouable. En fait, quand tu essayes de jouer au jeu, tu t'aperçois que c'est pas jouable et que c'est juste une critique du rôliste à travers une base de jeu de rôle. On peut trouver ça aussi dans Ésotéorique de Cédric Ferrand. Cédric Ferrand critique ceux qui font de la branlette intellectuelle autour du jeu de rôle en créant une fausse base de jeu de rôle en PDF, en faisant un énorme avant-propos ultra pompeux avec des mots très complexes qui veulent rien dire, etc. Quelques règles chiées sur un bout de PQ et après une grande conclusion avec je remercie toutes ces grandes théories qui m'ont permis, et tu vois, et c'est des mauvais jeux, ces deux jeux là
Oui, oui.
Pour autant, ils se publient comme jeux de rôle et ils sont des critiques du média et ils sont intéressants dans la conversation. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à dire sur tout ça. Et moi, je pense que voilà, Tout le monde est John, c'est typiquement ce genre de jeu.
Ouais. Ouais.
Donc voilà. Est-ce que vous aviez des choses à ajouter ? Est-ce qu'on n'a pas déjà un peu fait le tour de la question ?
On est à combien de temps là ? Parce que ça m'intéresse pour 20 minutes de partie, combien de temps on a réussi à en parler ?
1h09, mais en fait on n'a pas vraiment parlé de...
Non,
de
c'est vrai.
On est jeune, on a à peine décrit la partie, on a même
et
pas...
Et puis je voulais lancer façon...
Ce débat.
Sujet de bac... En plus, avec le côté tout le monde est jeune, jeu de société ou jeu de rôle, avec volontairement une question qui était polémique de ma part. Hein, Je plaide là aussi pour la polémie.
Ouais. Sans déconner.
Le côté polémiste, c'était vraiment volontaire de ma part, limite troll, tu vois. Parce que je savais bien qu'on allait parler de jeux société, de jeux de rôle.
Et tu savais bien qu'il n'y a strictement aucun troll autour de cette table.
Tout à fait.
Voilà.
Il y en a
tout
pas.
Le monde est un troll.
Tout le monde est troll. Allez, à très bientôt tout le monde, merci.
Salut tout le monde,
Julien, merci Darky, merci Pierre, merci Jérémy d'être venu tester ce jeu. À bientôt, bonne semaine à tous, portez-vous bien, jouez bien. Salut.